Le journal, Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. La mort de l'ancien président des États-Unis George Bush, père d'un autre président américain, George W. Bush, en une ce matin. L'ancien locataire de la Maison-Blanche avait 94 ans. Il avait notamment déclenché l'opération Tempête du désert. Nous rejoindrons en direct le correspondant de France Culture à New York dans ce journal.
Donald Trump a salué un leadership inébranlable depuis le sommet du G20 à Buenos Aires.
Nous irons en Argentine où des manifestations contre le sommet ont eu lieu hier. Reportage à suivre avec Caroline Vic dans un instant.
Et puis l'actualité en France, marquée par le nouvel appel à manifester des gilets jaunes.
Sur les Champs-Élysées notamment, alors que les opposants à Emmanuel Macron rêvent d'une convergence des luttes. La CGT se rassemble aussi place de la République à Paris. Des lycéens appellent à défiler. Un rassemblement aussi contre le racisme à l'appel du collectif Rosa Parks. Toutes ces manifestations, il en sera question avec votre invitée Caroline Brouille.
Oui, toutes ces manifestations, peut-être des mouvements de contestation et notamment celui des gilets jaunes. Nous recevons le sociologue de renommée mondiale Alain Tour. Et nous lui demanderons quelle est son interprétation de ce mouvement et des divers mouvements qui naissent aujourd'hui en France.
Et puis dans ce journal, nous entendrons aussi le maire de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Il porte plainte après les propos d'un ancien SS de 96 ans qui déclare ne pas regretter le massacre auquel il a participé dans un reportage diffusé en Allemagne. Mais nous partons tout de suite aux États-Unis où on a appris il y a 2 heures la mort de George Bush, père. L'ancien président américain, le père de George W. Bush, qui a lui aussi été locataire de la Maison-Blanche, avait 94 ans. Et on fait un petit retour sur le mandat de George Bush de 1989 à 1993 avec notre correspondant à New York, Laurie Glory. Bonjour.
Bonjour.
En direct sur France Culture. Donc George Bush avait notamment lancé l'opération Tempête du désert, début de la guerre du Golfe.
Eh bien oui, cette fameuse opération Tempête du désert, c'est George Bush qui avait pris la tête de la coalition internationale. Il s'agissait, pour mémoire, d'une réaction à l'invasion du Koweït en 90 par Saddam Hussein, et c'était alors la plus importante offensive terrestre depuis la Seconde Guerre mondiale. Après cette victoire militaire, George Bush, père, profite d'une popularité exceptionnelle à plus de 90% aux États-Unis, mais cela ne l'empêchera pas quelques années plus tard d'être battu par Bill Clinton après un seul petit mandat. Son CV exceptionnel pourtant ne lui aura pas permis de rester président plus longtemps. Il fut un héros de la Seconde Guerre mondiale, un colistier de Ronald Reagan, vice-président. Il a aussi été ambassadeur à l'ONU ou directeur très éphémère de la CIA. En 89, lorsqu'il est finalement élu à la Maison-Blanche, on l'avait accusé de n'avoir aucune idéologie politique. Lui affirmait simplement, c'était un slogan bien sûr, rendre l'Amérique plus aimable et plus douce. Ces dernières années, George Bush se déplaçait en fauteuil roulant à cause de sa maladie de Parkinson. Il avait pu malgré tout assister aux obsèques de son épouse il y a à peine quelques mois. Son nom restera bien sûr associé à la politique américaine puisque le 41e président américain, celui de la guerre froide, George Bush, était aussi celui du 43e, George W. Bush, celui du 11 septembre et de la guerre contre le terrorisme.
Merci Loïc Loury en direct pour France Culture depuis New York. Le président américain Donald Trump a salué le leadership inébranlable de son successeur George Bush père, décédé donc cette nuit, on l'a appris. Donald Trump qui ajoute par ailleurs, à travers son authenticité, son esprit, son engagement en inébranlable en faveur de la foi, de la famille et de son pays, le président Bush a inspiré des générations de concitoyens américains. Donc toujours dans ce communiqué. Alain Touraine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'invité des matins de France Culture. Que pensez-vous de cette déclaration de Donald Trump ?
Écoutez, d'abord, la première réaction que j'ai, je pense que tout le monde a en France et ailleurs, à propos de la mort du président Bush, c'est qu'on peut lui faire beaucoup de reproches, mais il était mieux que son fils. Parce que c'est son fils qui a marqué la dernière tentation des États-Unis d'avoir une politique qu'on pourrait appeler un impérialisme républicain. Raymond Aron avait employé une expression comme celle-là, la République impériale. C'est-à-dire que, à ce moment-là encore, et c'est ça qui est intéressant à propos de Trump, dont on a dit toujours pique-pendre, et moi dont je continue à penser beaucoup de mal, parce que ce que les Américains, et en particulier Clinton, ont fait, qui est quand même assez extraordinaire, c'est au moment où on entre dans une ère technologique nouvelle, où on lance les computers, les smartphones, etc. Qu'est-ce qui décide les Américains ? il décide de faire fabriquer ça en Chine, c'est-à-dire de faire rentrer la Chine dans l'économie mondiale, ce que les Russes n'avaient pas été capables de faire. Moi, je pense que on peut dire beaucoup de choses. Il y a eu un prix à payer énorme. Il y a eu Detroit en ruine, enfin toutes les villes, les vieilles villes du nord-est, des grands lacs, en ruine, en chômage de longue durée. Terrible. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce qu'ils ont fait, les Américains, à ce moment-là, peut nous protéger contre une guerre mondiale, parce que les Chinois et les Américains peuvent s'engueuler, peuvent être en rivalité, tout ce qu'on voudra, mais ils ont peut-être quand même la conscience d'appartenir au même monde et de ne pas le foutre en l'air, ce monde. Bon, tandis que maintenant, M. Trump essaye de refaire non pas seulement America first, l'Amérique d'abord, mais j'ai presque envie de dire l'Amérique toute seule. Et ce dont nous allons parler, c'est que le reste du monde, il ne suit pas, ou on l'empêche de suivre. Et par conséquent, il se crée des tensions formidables.
Merci beaucoup Alain Touraine. Vous restez bien sûr avec nous pour les matins du samedi. L'invité donc de Caroline Brouet, juste après ce journal. Vous parliez justement de l'économie mondiale. Aujourd'hui, il en est question bien sûr au sommet du G20 actuellement en Argentine, à Buenos Aires, où Donald Trump vient de faire cette déclaration. Un sommet marqué aussi par les discussions diplomatiques. Emmanuel Macron qui a longtemps parlementé avec Vladimir Poutine à propos de la flambée de tensions en Ukraine, alors que le président français n'a eu en revanche que 5 petites minutes pour discuter avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, MBS, à propos du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Et dehors, il y avait, au moment de ces discussions, une grande manifestation des anti-G20, des organisations politiques et sociales qui appelaient donc à manifester contre ce sommet. Reportage à Buenos Aires de Caroline Vic.
Plus de 2000 hommes chargés de la sécurité, casqués et armés, montés sur des tanks militaires ou réfugiés derrière de hautes barrières. Un niveau de sécurité jamais vu à Buenos Aires depuis la dictature, qui n'a pas découragé les manifestants venus faire entendre leur voix, notamment contre le FMI. C'est le cas de Tamara, 45 ans.
D'avril à aujourd'hui, les salaires ont dévalué de moitié. On vit très angoissé et beaucoup sont dans la misère. Personne n'a voté pour le FMI, personne.
Une crise qui s'approfondit en Argentine et réveille les fantômes de 2001. À la fin de la manifestation, Nora Cortinas, 88 ans, l'une des fondatrices des maires de la Place de Mai, très engagée dans la vie sociale argentine, a prononcé un discours virulent contre le gouvernement.
Nous dénonçons la soumission du gouvernement de Macri aux politiques imposées par le G20, comme l'accord avec le FMI qui nous condamne à une dette illégitime et impayable.
Une marche réalisée par des organisations sociales, politiques et syndicalistes, mais qui reflète l'inquiétude de la majorité des Argentins, dans un pays où cette année seulement, l'inflation s'élève à plus de 40% et la dévaluation du peso à 120%.
Caroline Vic à Buenos Aires pour France Culture.
France Culture, il est 8h08, suite du journal avec les actualités françaises. De nouveaux soutiens plus ou moins directs pour les Gilets jaunes aujourd'hui, Sophie.
Oui, et notamment des lycéens qui sont descendus dans la rue dès hier pour protester contre la réforme du lycée et Parcoursup. Certains ont d'ailleurs rejoint les Gilets jaunes, comme à Terrasson en Dordogne, environ 80 km à l'est de Périgueux. C'est un reportage d'Antoine Balandra.
Macron démission ! Macron démission !
C'est au cri de Macron démission ou Macron on veut plus de pognon que les lycéens se sont rassemblés aux quatre coins du carrefour principal de Terrasson. De nombreux automobilistes les saluent d'ailleurs bien volontiers. Des lycéens comme Léandre et ses amis qui n'ont pas hésité à sécher les cours.
Un peu, ouais, mais bon, c'est pour la bonne cause, on va dire. Pour les baisses des taxes pour nos parents, les fins de mois sont difficiles.
Certains ont enfilé le désormais célèbre gilet jaune. Ce qui préoccupe ces jeunes issus d'un milieu plutôt rural, c'est l'avenir qui leur semble déjà bouché.
C'est tout.
Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un avenir, c'est payer beaucoup moins de taxes.
Et c'est vrai que déjà que c'est difficile, si nous, en plus, les lycéens ou les étudiants, on doit se mettre en plus à payer encore plus pour pouvoir aller étudier, c'est pas possible, c'est impossible.
Ouais, déjà que les études, en plus, elles sont chères, alors si on doit payer des 1000 et des 100 pour juste aller à Bordeaux ou à côté, ben, ça va être compliqué pour nous.
L'étendard sanglant élevé !
La peur déjà de l'enclavement, de l'inégalité des chances. Les lycéens se disent prêts en tout cas à manifester à nouveau tout le week-end.
On sera là jusqu'au bout.
Reportage d'Antoine Ballandra. Les Gilets jaunes qui prévoient à nouveau de manifester sur les Champs-Élysées aujourd'hui, une semaine après les violences de samedi dernier. Cette fois, la préfecture de police a presque doublé les effectifs des forces de l'ordre dans la capitale aujourd'hui par rapport à la semaine dernière. Plus de 5000 policiers et gendarmes sont mobilisés avec la mise en place de barrages filtrants depuis 6 heures ce matin aux abords de l'avenue pour dissuader les éventuels casseurs. Alors qu'à Paris, toujours la CGT tente de se rapprocher des Gilets jaunes et appelle à se joindre d'ailleurs, les appels à se joindre à elle lors de sa manifestation d'aujourd'hui, une manifestation qui a lieu tous les 1er décembre depuis 12 ans maintenant, contre le chômage et la précarité notamment, manifestation au départ de la place de la République à Paris, alors que dans le même temps, le collectif Rosa Parks contre le racisme lancera, elle, sa manifestation depuis la place de la Nation. Les propositions et les déclarations de l'exécutif cette semaine devaient tenter, en tout cas c'était le souhait d'Emmanuel Macron, d'enrayer cette colère. Il n'en a rien été. Cela a été une semaine donc marquée par les difficultés entre les Gilets jaunes et notamment le Premier ministre hier qui tentait de joindre, de discuter avec une délégation qu'il devait rencontrer. Finalement, cette rencontre a tourné au fiasco. Alexandra Dubouchereau.
Depuis mardi, Emmanuel Macron et ses ministres sont en première ligne, mais ils défendent un changement de méthode et non de cap. L'étincelle ne s'éteint pas, les barrages résistent, on y dénonce le mépris du gouvernement et l'opposition est en embuscade. Épilogue de la semaine, ce rendez-vous manqué à Matignon hier. Le Premier ministre avait invité 8 représentants des Gilets jaunes, seuls 2 sont venus, un seul est resté. L'humiliation est proche, mais Édouard Philippe écarte l'idée.
Il aurait été incompréhensible qu'après avoir reçu tous les représentants des associations, des syndicats, des élus locaux, des corps intermédiaires, nous n'ayons pas ce moment d'échange avec les représentants des Gilets jaunes. La porte de Matignon restera toujours ouverte si les Gilets jaunes souhaitent désigner des représentants.
Car ce mouvement protéiforme n'a pas de chef, pas de négociateur. La légitimité des porte-paroles fait débat. Ces derniers disent recevoir des menaces. Ils ont d'ailleurs jeté l'éponge. Mais pendant ce temps-là, le mouvement s'élargit. L'acte 3 de la mobilisation aujourd'hui devrait rassembler syndicats, étudiants, banlieues, nuit debout des villes, Gilets jaunes de la périphérie. Tous ont rendez-vous sur les Champs-Élysées à Paris pour crier leur ras-le-bol. La question des prix du carburant semble bien loin, alors que l'exécutif, lui, continue de promouvoir sa grande concertation sur la transition écologique. Elle sera lancée la semaine prochaine. Il croit encore à ses méthodes. Les Français, eux, sont désormais 8 sur 10 à soutenir les Gilets jaunes.
Alexandra Dubouchereau. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, a accusé l'exécutif de choisir le pourrissement à l'égard des Gilets jaunes, alors que les groupes communistes et insoumis espèrent convaincre le groupe socialiste à l'Assemblée nationale de les suivre pour déposer une motion de censure qui peut en théorie faire sauter le gouvernement. Mais pour déposer cette motion, il faut d'abord récolter 58 signatures de députés. Il ne regrette rien. 74 ans après, Karl Munter ne voit pas en quoi il a mal agi. Cet ancien SS a aujourd'hui 96 ans. Il a participé au massacre d'Ask pendant la nuit du 1er au 2 avril 1944. 86 civils ont été assassinés par les nazis dans ce village proche de Lille, en représailles après le déraillement d'un train provoqué par les résistants. Et jeudi soir, une chaîne de télévision allemande a diffusé son interview. Il a eu ces mots. Tant pis pour eux. L'ancien SS a aussi nié l'ampleur de l'Holocauste. Des mots très difficiles à entendre pour Alexandre Dölzen, descendant de l'une des victimes, la plus âgée d'entre elles. Son arrière-grand-père avait 74 ans à l'époque.
C'est très blessant. Il y a encore des enfants de victimes. Moi, c'est mon arrière-grand-père qui était le plus vieil homme assassiné, réveillé dans la nuit à 74 ans pour être assassiné, avant d'avoir été battu d'ailleurs. À coup de crosse, mais c'est blessant, scandaleux, c'est à vomir. À l'heure où les populismes allemands en Europe reviennent un peu partout, là, il faut que de tels propos soient quand même sanctionnés et qu'on y mette un terme, quoi, que la justice allemande ne laisse pas faire. Il n'a pas passé un seul jour en prison à raison de l'assassinat qu'il a perpétré à Ask, ou en tous les cas d'avoir participé au massacre. Il a reconnu les faits, maintenant il vient dire que c'est pas si grave que ça, que c'était la guerre et qu'il n'a fait entre guillemets que son travail, sinon son devoir de nazi. S'il a évité le procès, on sait pourquoi. La justice a considéré que c'était un fait de guerre et que c'était prescrit. Moi je considère que c'est un crime contre l'humanité que de réveiller 86 personnes et les assassiner froidement. Maintenant j'espère qu'il sera jugé pour les propos négationnistes qu'il tient.
Voilà, et donc Alexandre Dölzen a porté plainte. Il espère faire aboutir ses faits et donc transformer cette plainte, donc déposer plainte pour crime contre l'humanité et négationnisme. D'autres plaintes pourraient suivre d'ailleurs. Le maire de Villeneuve-d'Ascq, Gérard Caudron, dénonce des propos ignobles et va demander à Emmanuel Macron et Angela Merkel d'en faire autant. Direction maintenant la péninsule coréenne pour ce voyage en train aujourd'hui. Pour la première fois depuis 10 ans, un train est parti de Corée du Sud en direction de la Corée du Nord. Il a franchi la ligne de démarcation militaire ce matin. Il a franchi ce matin au moment même où nous parlons, avec à son bord plusieurs dizaines d'officiels sud-coréens. L'objectif est d'inspecter des centaines de kilomètres de voies ferrées pour moderniser et reconnecter avec les villes du Sud. C'est un voyage historique. Sur la moitié ouest du pays, de la brume. En revanche, sur l'est, du soleil au bord de la Méditerranée. Les températures sont comprises ce matin entre 6 et 12 degrés. Cet après-midi, on aura 8 à 16 degrés au plus fort de la journée. Le soleil brillera tout au long de la journée au bord de la Méditerranée.